Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça sera un Gulliver des idées. Puisque nous recevons Marie Reverdy, bonjour.
Bonjour.
Pour un livre qui s'intitule « Comprendre l'impact des masses médias dans la D, entre parenthèses, construction identitaire ». Alors, on va essayer de parcourir le livre et essayer d'en donner un peu une idée un peu simple, parce que c'est un travail qui est issu de travaux universitaires, donc... avec un certain nombre de règles, de références, etc. Mais ce qui m'a passionné dans le livre, c'est qu'au fond, on peut le lire de manière assez simple, parce que en le parcourant, il y a un certain nombre de questions que l'on peut être amené à se poser, à tout moment. Et là, tout à coup, on a un certain nombre de réponses, ce qui est quand même une très bonne chose. Alors, le livre commence. Peut-être on viendra sur l'aspect identité tout à l'heure, mais le livre commence par une sorte d'introduction aux mass médias, au fait que qu'est-ce que c'est qu'un mass média, quel rôle ça joue et comment ça intervient dans la société. Pourquoi avoir commencé, bien que ce soit le thème, avoir commencé par une sorte d'approche du mass média? Est-ce que il vous a semblé que c'était ambigu, on avait une mauvaise appréhension de ce phénomène?
Alors en fait, cette partie qui est la première, effectivement, a été écrite en dernier. Elle a été rajoutée, en fait, dans un second temps, puisqu'il ne s'agissait pas tant de décrire ce qu'étaient les mass médias que de réfléchir aux conditions de leur influence. Effectivement, il est difficile de dire qu'il y a une influence directe des mass médias sur les auditeurs, sur les téléspectateurs. Il est difficile de dire qu'il n'y en a aucune également. Donc c'est un chapitre en fait qui réfléchit, qui présente déjà les diverses théories sur l'influence possible éventuelle des mass médias et qui tentait de répondre et de présenter la dimension symbolique, on va dire. De l'influence que les mass-médias pouvaient avoir.
C'est-à-dire, par exemple, la question que souvent on se pose, est-ce que la télévision rend les enfants violents ou est-ce que ça les rend, au contraire, passifs? Au fond, la réponse n'est ni l'une ni l'autre. C'est quelque chose de plus complexe.
Voilà, elle peut pas être, on ne peut pas avoir une réponse très claire. On ne peut pas répondre, oui, il y a un impact direct, on voit de la violence à la télé, on devient violent. Ça serait un petit peu simpliste. Et on ne peut pas non plus nier que chaque représentation face auquel on se trouve est une expérience qui modifie aussi notre rapport au monde. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment une structure argumentative va pouvoir se retrouver dans divers énoncés médiatiques et que finalement, c'est cette structuration que nous allons intégrer. Pas tant ce qu'elle dit, mais comment elle formule des énoncés.
Alors, vous avez au tout début, il y a un truc qui m'a frappé, parce que vous faites une distinction qui est assez lumineuse entre l'image et l'écrit. Je vais un peu vite en disant entre la télévision et l'écrit. Vous dites, la télévision, au fond, donne à voir le réel tel qu'il apparaît, et par contre, l'écriture, elle, donne l'effet, l'effet passe par le récit, d'un journaliste ou de quelqu'un qui raconte. Et donc, on voit bien là que, d'un côté, on a un effet analogique, mimétique presque, vis-à-vis du réel. Et de l'autre côté, on a un filtre qui est celui qui raconte.
Et pourtant, cet effet mimétique n'est qu'illusoire. Parce qu'en fait, j'introduis ce que Jean-Marie Schaeffer appelait l'arché. L'arché, c'est une connaissance... présupposé, en tout cas, qui n'est pas forcément réel, de la technique de production. En fait, la télévision, par la caméra, donne l'illusion qu'elle capte le réel tel qu'il est. Mais ce n'est qu'une illusion, puisqu'effectivement, il y a une construction d'image. Alors que face à un récit, face à l'écriture, on sait qu'il y a une temporalité qui a permis un peu de recul, qui...
On passe par le filtre d'une subjectivité, au fond.
Dans les deux cas. Mais dans les deux cas, sauf que c'est peut-être moins visible, moins clair, dès qu'il y a image. On a vraiment l'impression que l'image télévisuelle capte le réel tel qu'il est à l'instant où il se passe, qu'on a un rapport immédiat. Et c'est une illusion, puisque le réel, on sait bien, est construit aussi par l'œil qui
bien
regarde.
Sûr, bien sûr. Capte. Et puis le hors-champ est quelquefois plus important que le champ.
Et le hors-champ est très important.
Alors... au fond, c'est peut-être là que réside tout le côté un peu manip. Enfin, c'est que comme on nous donne à voir des choses dont on a l'impression qu'elles sont la réalité elle-même, on ne peut pas se rendre compte qu'en fait, on peut être traversé et donc manipulé, amené à vivre des choses que l'on ne maîtrise pas dans l'image télévisuelle.
Oui, alors le terme manipulation est à prendre à manipuler avec des pincettes, parce que je ne suis pas du tout dans la théorie du complot ou quoi que ce soit.
Oui,
je pense qu'il y a aussi pas mal de malentendus, d'intentions louables et qui sont malgré tout des ratés. Je donne un exemple de Stade 2, à un moment donné, qui effectivement... avait envie d'intégrer une problématique un petit peu sociale, enfin, d'expliquer comment le sport était un intégrateur social, mais qui effectivement, dans cette émission-là, avait produit uniquement des énoncés qui décrivaient la banlieue comme un endroit de violence qu'il fallait sauver par le sport. Et donc finalement avait produit une image très réductrice de la banlieue. Mmh. Et pourtant l'intention de base était louable, donc il n'y a pas forcément de malveillance. Mais il y a malgré tout un résultat qu'il convient de réfléchir, bien évidemment.
Alors d'ailleurs, c'est là que tout à coup on prend conscience de l'importance des écrans. Vous dites, vous donnez un chiffre, on passe en moyenne 3h30 de notre journée devant un écran. Enfin, en l'occurrence, la télévision, je crois.
Oui, alors ça peut être en replay, ça peut être par le biais d'Internet, mais oui.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Et donc, ce qui veut dire d'ailleurs que comme il y en a qui doivent la regarder moins, il y en a qui regardent beaucoup plus.
Oui, ça, c'est une moyenne, en fait. Mais effectivement, après, le Internet peut relayer des extraits de médias, le principe du zapping, par exemple. Donc, effectivement, ça fait...
Alors, précisément, vous parce que moi, c'est une distinction que je n'ai pas beaucoup lue dans mes lectures, mais je ne connais pas tout, bien sûr. Vous faites une comparaison entre la télévision, l'usage de la télévision et l'usage d'Internet. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous battez en brèche un peu l'idée qu'Internet, c'est la liberté. On se dirige comme on veut dans le monde du savoir. On a accès à tout. Vous dites que ce n'est pas si simple.
Non, ce n'est pas si simple. Et là encore, c'est une histoire d'archée. C'est-à-dire qu'effectivement, Internet, on a la sensation peut-être de pouvoir s'exprimer, d'être un petit peu plus libre, de réagir. Mais on sait très bien que c'est extrêmement codifié. L'anonymat modifie quand même pas mal de choses, donc l'expression de la subjectivité dès qu'on se sent l'envie de passer par le prisme de l'anonymat, ça pose quand même déjà question. Et effectivement, les moteurs de recherche nous renvoient sur ce qui est le plus vu, etc. Donc il n'y a pas vraiment...
En fait, il n'y a aucune liberté.
C'est pas qu'il n'y a pas de liberté, mais c'est qu'en tout cas, le côté extrêmement démocratique de l'information, ça reste quand même aussi une loi du buzz d'une certaine manière, une loi du plus grand nombre. Et puis maintenant, la télévision relaye, il y a des petites chroniques comme ça, vues sur Internet, les plus gros buzz d'Internet, etc. Donc oui, ce n'est pas aussi lisse que cela peut paraître.
Alors, on a une idée un peu là, de la problématique liée à ces médias qui est dans lesquels nous baignons, au fond. Et là, on entre ensuite dans le phénomène de est-ce que ce qu'elle divulgue comme modèle ou comme image est constitutif d'une forme d'identité ou au fond de pas d'identité d'ailleurs, puisque ça oscille entre quelquefois des cas que vous citez où les gens acquièrent une forte identité ou d'autres qui malheureusement sont quasiment privés d'identité par les phénomènes. Alors, expliquez-nous d'abord l'identité, au fond. Qu'est-ce que c'est cette chose-là dont on parle beaucoup et dont, depuis maintenant quelques années, nationale, pas nationale, enfin, culturelle.
Alors, là, j'aborde, moi, la question de l'identité au sens large et telle qu'elle est vécue. Donc, effectivement, je ne cherche pas à répondre à la question « qu'est-ce que l'identité française ?» etc. Ce n'est pas mon propos. Mais on ne peut pas nier le sentiment de porter une histoire, d'être attaché à un lieu, de s'identifier aussi à ce lieu. Je parle beaucoup, en fait, de la notion de territoire dans ce livre. Et donc, ce sont ces identités-là, moi, qui m'intéressent. Ce sont celles qui sont revendiquées d'une certaine manière. Alors, qui ne sont pas spécialement revendiquées de manière très spectaculaire dans un premier temps. Et si dans le titre, je parle de déconstruction identitaire, c'est parce que j'aborde la question de la représentation, la représentativité, en fait, des diversités à l'intérieur de la télévision. En fait, ce qui m'a intéressée, c'était à partir d'un texte de Bourdieu. C'est de voir comment une identité était parfois construite par réaction. De voir comment, quand on a l'impression qu'une image de soi est fausse, est galvaudée, est simpliste, et puis terne, on a envie de revendiquer deux fois plus. Bourdieu parlait de l'Occitanie, en fait, de la constitution de la culture occitane. Il partait du principe que, certes, il y avait un fond commun de culture, ou un fond commun linguistique, mais il n'y avait pas de conscience occitane. Et puis, la moquerie sur l'accent du Sud, le fait qu'il y ait des différences économiques entre les régions également, a fini par créer une revendication sur le modèle, et il cite le modèle « Black is beautiful », c'est-à-dire qu'à force d'essayer de se défendre contre les préjugés, et quand c'est vain, quand on n'y arrive pas, quand quoi qu'il en soit, on a l'impression qu'on sera enfermé par ceux qui ont droit de parole, eh bien on finit par retourner le stigmate pour en faire une fierté. C'est le feignant du Sud qui finit par revendiquer « chez nous, c'est tranquille », par exemple. Et c'est une pure construction, en fait, par réaction. Donc, on a déconstruit, finalement, une culture, mais on en a construit une autre, que l'on revendique comme étant une identité qui plus est traditionnelle, par réaction, en réponse à un stigmate. C'est-à-dire que la stigmatisation a réussi à créer ce comportement identitaire.
C'est la thèse la plus passionnante de votre livre, d'ailleurs, de montrer que, en réalité, la stigmatisation, le fait de dénoncer un travers chez quelqu'un, finit par être complètement retourné, et il l'assume et il en fait une arme, au fond, de défense.
Oui,
ça, c'est extraordinaire.
Oui, oui. Et c'est pour ça que, pour revenir sur le chapitre 1, c'est pour ça que l'influence n'est pas si directive. C'est une influence finalement indirecte. On ne s'attend pas à ce que les gens retournent finalement le stigmate pour en faire une fierté. Et c'est pourtant une des conséquences, en fait.
D'ailleurs, si on voulait faire un parallèle, disons actuel, on pourrait dire peut-être que le voile pourrait être quelque chose qui a été imposé, en tout cas que l'on a dénoncé, peut être à un moment donné assumé et devenir de ce fait.
Je pense, et effectivement, beaucoup de sociologues remarquent que 2004 a été une espèce de tournant dans la revendication du voile, effectivement. Donc je pense que c'est le même mécanisme, oui.
Au fond, il vaut mieux laisser les... j'allais dire de manière un peu triviale, foutre la paix aux gens, quoi. Et ne pas leur trouver des travers, puisque de toute façon, ils s'en servent. C'est intéressant aussi de voir qu'on peut se défendre contre quelque chose qui vous est reproché.
Oui, mais alors, au-delà de foutre la paix aux gens, quoique je ne sais pas trop ce que ça veut dire foutre la paix aux gens, donc, mais oui, l'idée de paix me plaît bien. Mais en revenant sur la question de la représentativité, c'est de voir, par exemple, je cite certains... on a évidemment quelques figures très emblématiques de ce discours dominant qui parle au nom des Français de souche et qui parle d'eux. Donc il y a les sujets du discours et il y a les objets du discours. Et foutre la paix aux gens, c'est leur laisser aussi sûrement plutôt la parole, en fait, que la paix, la parole. Oui. Et voilà, ne pas les réduire à une image. Je pense que c'est aussi quand même ce sentiment d'être réduit qui est un sentiment d'injustice qui produit cette réaction identitaire. Il ne s'agit pas de dire, enfin, je n'affirme pas du tout, laissons faire et ça va s'auto-réguler. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas de solution à donner. Mais on ne peut pas confisquer la parole. On ne peut pas confisquer la parole d'un groupe et dire on n'est plus habilité à te décrire, à décrire tel groupe, plus habilité à le réduire aussi. En fait, on crée des groupes, tout simplement, comme ça.
Oui, bien sûr. Au fond, ils ne se créent pas eux-mêmes. C'est dans le regard des autres, surtout, qu'ils se créent.
Et alors, en même temps, ça a parfois donné des choses très belles. Hein. Je donne l'exemple de certaines émissions qui ont permis la conscience féministe ou la conscience ouvrière. Donc, c'est pas toujours une réaction négative. C'est le même mécanisme, cela dit. C'est un mécanisme de prise de conscience, d'appartenance à un groupe. Ou se sentir appartenir à un groupe. Même si le groupe est parfois un peu fictif, à partir du moment où on se sent appartenir à un groupe et que plusieurs personnes se sentent appartenir à un groupe, ben le groupe finit par exister de toute façon.
Alors vous dites aussi qu'il y a des formes d'identification collective, donc, mais il y a aussi des formes d'identification individuelle. Ça joue sur les deux niveaux. Ce qui fait qu'une personne, elle peut être... Elle peut adhérer à une forme de communauté, mais en même temps, à travers certains modèles, elle se crée aussi sa propre identité individuelle.
Ben, elle se crée comme membre d'un groupe. Ça devient son identité individuelle, en fait. Nos identités individuelles ne sont jamais séparées du collectif. Donc, ce n'est pas tant la création d'un groupe que des gens qui se sentent appartenir à un groupe. Et donc, c'est une série de modifications qu'on intègre à titre individuel. Donc, on finit à titre individuel par pouvoir se sentir occitan, pour reprendre l'exemple de Pierre Bourdieu, à avoir envie de revendiquer le voile, et pas toujours pour des questions religieuses, hein, ça peut être des questions identitaires. Voilà, c'est une... C'est l'individu qui le ressent.
Dans la partie consacrée à la stigmatisation, vous détaillez très finement comment le processus se met en route. Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, là, nous expliquer là, la mécanique de cette stigmatisation ?
À propos de Pierre Bourdieu ?
Non, mais comment il y a une vous consacrez un certain nombre de pages comment une personne reçoit le fait d'être alors qu'elle n'y pense même pas d'être stigmatisée, comment ce phénomène s'amplifie
Oui, alors le fait d'être stigmatisé, effectivement, La première chose, c'est quand on commence à prendre conscience qu'on parle de nous. C'est-à-dire, on est face à un discours, et puis tout d'un coup, on sait que c'est un discours qui porte sur nous. Donc, malgré tout, on ne s'y reconnaît pas. Donc, on identifie qu'on est censé s'y reconnaître, mais on ne s'y reconnaît pas. Et il y a eu plusieurs tentatives aussi de dialogue, hein, d'une certaine manière, de discussion. Donc, je donne l'exemple d'un quartier de Grenoble qui s'appelle Villeneuve et qui a été l'objet comme ça d'une émission. Donc ils avaient envie de parler, ils avaient envie de prendre la parole, ils avaient envie de se présenter et d'être en dialogue. Et on leur a confisqué finalement d'une certaine manière ce droit puisque la chaîne avait un contrat avec la production qui avait imposé certaines images d'Épinal. Donc, puisqu'on était dans un quartier populaire, il fallait forcément une femme violentée, il fallait forcément un dealer au coin d'un bloc HLM, alors que l'association qui était censée être filmée avait envie de parler de toutes les actions positives. Effectivement, c'est la colère ensuite qui prend le relais. C'est la colère face à l'injustice aussi. Alors, c'est une injustice symbolique parce que ce n'est pas forcément en termes de chiffres ou d'économie hein, que ça se traduit. C'est vraiment un sentiment identitaire. Voilà, donc c'est cette colère finit par créer le besoin de se regrouper, déjà, pour revendiquer ensemble. Je parle de communauté de colère, jusqu'à ce que ça devienne une communauté de revendication identitaire.
Et alors, d'ailleurs, vous voyez, vous parlez de mécanisme de pensée. C'est à cet égard très intéressant. Et alors, ce qui est... On a donc une partie consacrée à la description des écrans, de tout ce qui est média. On a une partie donc, où on a tous ces exemples. D'ailleurs, je pense à un qui m'a beaucoup frappé, c'est le maire d'une commune au moment des attentats qui dit, c'est Saint-Denis, je pense,
Gennevilliers.
Ou Gennevilliers, donc, il y a eu... On a montré sa commune dans un état d'effervescence terrible. Il dit, mais vous pourriez revenir peut-être pour montrer comment ça se passe quand il n'y a pas d'attentat, quand tout va bien.
Oui, oui, on n'a pas que les frères Kouachi dans notre ville. Et c'était vraiment ça, son discours. C'est, oui, d'accord.
Il y a même une sorte d'affiche.
Alors, il a fait des tracts. Il a fait des tracts en proposant voilà, aux journalistes, puisque vous êtes venus pour une fois, puisque vous ne venez jamais... On n'est jamais, c'est jamais notre ville qui représente, on va dire, la France, hein, qui peut être un digne représentant de la France. Vous ne venez jamais là où vous êtes venu. Ça a été l'invasion, en fait, finalement, puisque c'était dans le feu de l'actualité. Et il les invita à revenir pour voir aussi comment on vivait très normalement dans cette ville, comment des associations étaient très actives, enfin, comment une vie s'organisait. Et les journalistes, en tout cas au moment où... n'ont pas donné de réponse.
Alors on a l'impression quand même, donc, en vous lisant, qu'au fond, les médias, en général, ne s'intéressent pas au train qui arrive à l'heure, au fond. Ils ne s'intéressent que...
Certes.
que quand il y a un événement, quoi. En dehors de ça...
Oui, et puis bon, forcément, l'événement est... douloureux, d'une certaine manière. Ça, c'est le jeu de des informations, tout simplement. Hein. Mais ça a un impact sur le sentiment de se sentir ou non représenté, de se sentir ou non réduit, clairement. Et si une partie de l'ouvrage parle vraiment de l'impact, donc des réactions, de comment ça se passe, il y a aussi toute une partie consacrée, effectivement, à la production des énoncés. Comment ces énoncés, finalement, généralisent, comment on laisse la parole à certains... Je prends un exemple, Natacha Polony, très plus particulièrement, qui, à un moment donné, la télévision a ce pouvoir magique, d'une certaine manière, à faire de quelqu'un d'incompétent... Un spécialiste, voilà.
Un expert.
C'est un expert,
fameuse
voilà.
Histoire des experts,
on
ouais.
couronne des gens qui deviennent experts. Mais il y a toute une mise en scène aussi. Donc, il y a celui qui connaît bien le plateau télé, qui est chez lui, hein, tout simplement. Celui qui est l'invité, qui le connaît moins. Donc, déjà, ça peut quand même jouer. Celui qui maîtrise les codes, le timing, qui est souvent assis en hauteur. C'est dans l'émission que je cite en exemple, Natacha Polony est assise en hauteur. Elle a une table devant elle, ce qui veut dire que les mains peuvent être posées. On ne voit pas ses jambes. Donc, il y a déjà une posture physique, en fait, d'une parole qui va avoir plus de poids, d'une certaine manière. L'invitée est assise plus basse. On voit ses jambes. Il n'y a pas d'appui pour les mains. Elle passe à la question. Et effectivement, l'intervieweur n'a pas de contradicteur, puisqu'il interviewe. Sauf qu'elle n'interviewe pas, finalement, Natacha Polony. Elle monopolise la parole sur l'émission, l'exemple que je donne.
Oui.
Mais bon...
C'est toujours comme ça.
Voilà. Elle monopolise la parole. Finalement, elle finit par s'auto-interviewer sans aucun contradicteur. Donc, elle vole la parole. Et si on analyse quand même un petit peu ses discours, on a de sérieux problèmes sur le raisonnement. C'est-à-dire que... À un moment donné, je le dis de manière un peu... Mais on a une... J'étais prof de philo pendant quelques années en lycée. C'est vrai qu'on a une exigence sur les plans, sur les modes de raisonnement qui sont notés d'ailleurs pour l'examen du bac. Et là, on donne un salaire à quelqu'un qui passe au-delà des règles du raisonnement. et qui vient stigmatiser parce que son discours était relativement raciste quand même en même temps. Et il n'y a pas de contradicteur. Donc on a ce sentiment de poids, de mesure aussi quelque part, c'est de donner la parole à cette droite décomplexée qui effectivement n'a pas de contradicteur, fait des erreurs de raisonnement tout en ayant le statut de l'expert. Et ça, c'est quand même un sérieux problème.
Alors, on va terminer par la fin du livre, parce que je m'attendais pas à trouver ça là, et je trouve ça formidable, que vous intitulez, le dernier chapitre, « Les vertus de l'art ».
Oui.
Alors, expliquez-nous ça, parce que c'est...
Donc, c'est... ce que je reproche aux mass médias,
ce que vous y pointez, disons.
Voilà, ce que je pointe, merci. C'est ce monolithisme énonciatif. Ouais. Donc, parce qu'à un moment donné, j'aborde aussi la question, mais le nombre de blancs qui ne se sentent pas du tout représentés par le fameux français de souche qui prennent figure dans ces médias, eux non plus n'ont pas droit de citer, hein, de toute façon.
Bien
donc,
sûr.
On ethnicise un débat alors qu'en fait, finalement, il est tout autre. Et donc, on a ce monolithisme énonciatif. On répète la même chose, construite avec les mêmes erreurs de raisonnement, et on les répète. Donc, on est dans l'itération du même énoncé et de la même structure d'énoncé. Et ça, c'est ce que j'appelle le monolithisme énonciatif. Et plus on le répète, évidemment, plus il semble se cristalliser. Et voilà. Et je compare avec d'autres formes de représentation, et notamment en art, et notamment le théâtre documentaire, qui s'impose de donner la parole. Donc on abolit la notion de modèle et de quelqu'un qui va parler sur, hein, d'objet du discours et de sujet du discours, pour que l'objet du discours soit aussi le sujet du discours. Et on démultiplie les points de vue, c'est-à-dire qu'on accepte aussi la contradiction. Quelque part, le débat et la démocratie, c'est la base. C'est ce que j'appelle le polyphonisme énonciatif propre à l'art, et c'est dans ça que je vois dans l'art une capacité de subversion. Et c'est vrai que j'aborde toute la littérature beurre aussi, hein, de ces auteurs qui ont repris, qui ont tenté en tout cas de reprendre la parole, de se présenter, de montrer la complexité de leur vie, leur attachement à leur cité aussi, la notion de territoire, même s'ils sentaient que c'était des territoires un peu oubliés ou plus pauvres, même si le projet c'est parfois de partir d'un HLM, il y a aussi un attachement. La tentative de désethniciser le débat, puisque c'est de l'affirmation aussi de se sentir français, de partager la même expérience que le voisin qui peut s'appeler Jean-Louis. Et que c'est une littérature qui a... Alors là, ça change, mais qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à être qualifiée de littérature française, alors qu'elle est purement française.
Bien sûr. Alors, et vous avez une formule que je trouve magnifique et qui est en forme de conclusion, qui est idéale, parce que pendant des années, on a entendu parler du droit à la différence, et vous vous dites, peut-être il est temps de parler du droit à la ressemblance.
Oui. Oui, oui.
Et c'est peut-être ça la clé de vivre ensemble qui respecterait justement cette polyphonie des énoncés et pas simplement cette répétition d'un discours unique.
Je trouve qu'effectivement, on fait peu de cas de la revendication à la ressemblance qui existe, hein, qui est un discours que j'invente pas, hein, mais on en parle peu. C'est assez facile de miser tout le temps sur les différences et d'oublier un peu trop facilement les ressemblances.
En tout cas, merci beaucoup Marie Reverdy pour ce livre qui nous permet de comprendre un certain nombre de phénomènes auxquels on est soumis sans en avoir pleinement conscience. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.